Voix des Arts, présentée par Christine Darbou. Bonjour à tous. Alors la dernière émission, nous la coulions douce, si je puis dire, sous le climat avantageux de l'Italie, en compagnie des artistes femmes de la première moitié du XXe siècle, qui même si la conjoncture liée à l'histoire et notamment au fascisme et à la mentalité italienne laissait supposer qu'elles seraient gommées de la scène sociale, ce qui est relativement juste d'un point de vue général, celles dont je vous ai parlé finalement s'en tiraient plutôt pas mal, car elles ont pu s'exprimer, se faire remarquer et même avoir du succès dans leur domaine. Et nous avons pu ainsi faire la connaissance de peintres, illustratrices, décoratrices, scénaristes, écrivaines et musiciennes. Alors aujourd'hui, je vous emmène sous d'autres cieux, au contact d'un climat qui risquerait de nous rafraîchir quelque peu si nous n'étions pas susceptibles de nous réconforter au contact du tempérament slave. Et en effet, vous l'avez compris, c'est en Russie que nous allons faire maintenant escale à la découverte des créatrices, des femmes artistes de ce début du XXe siècle. Alors en ce début de siècle, nous assistons chez elles, comme chez la plupart des Russes, à un enthousiasme né de la Révolution et de la chute du régime tsariste, avec l'envie de participer pleinement au renouveau politique et social du pays. Alors cette belle exaltation sera d'assez courte durée d'ailleurs à cause de la soumission imposée par le pouvoir stalinien, ce qui générera comme conséquence de mettre fin à ce souffle de liberté qui portait au renouveau désiré, quelque peu idéalisé, car la réalité sera beaucoup plus prosaïque. Ceci dit, des femmes russes marquent aussi leur époque en s'intégrant et en évoluant avec leur création dans la société et leur nombre est plutôt important. Globalement et pour les artistes hommes et femmes de l'époque, il existera une avant-garde russe qui se distinguera par une adhésion au cubisme mêlé de futurisme. Le cubisme, comme vous le savez et aussi si vous m'écoutez, se marque par l'usage simplifié de formes géométriques. Quant au futurisme, eh bien, il s'agit d'adhérer à la modernité en passant par des nouvelles technologies où la machine tient la vedette. Donc voilà résumé succinctement et globalement la manière dont la plupart des artistes russes vont adhérer à l'avant-garde et ils seront à l'origine de ce que l'on appellera le constructivisme qui laisse place et privilégie les constructions géométriques en art plastique et en architecture et dont la philosophie sera de renouveler l'art en soutenant les révolutions sociales, industrielles et ainsi s'opposer d'une certaine manière à l'art ancien ou traditionnel. Alors, quelles sont les femmes artistes russes que nous pouvons dénombrer à l'aube du XXe siècle, adeptes à fond ou peut-être pas toujours totalement à cette avant-garde russe? Eh bien, on retiendra Natalia Goncharova, qui, bien qu'elle soit née au XIXe siècle en 1881, abordera le XXe siècle en pleine jeunesse, à l'aube de ses 20 ans. Alors, quel est son cursus? Eh bien déjà, elle entamera des études artistiques à l'Institut de peinture, sculpture et architecture de Moscou. Elle s'intéressera d'abord à la sculpture, mais s'orientera par la suite vers la peinture, sous les conseils avisés de professeurs qui avaient remarqué ses dons pour la couleur. Alors, tout d'abord influencée par l'impressionnisme avec ses touches de peinture lumineuse et sensitive, elle se tournera ensuite vers le symbolisme et le pouvoir inspirant et mythique des images. Et c'est d'ailleurs grâce à des expositions, notamment d'artistes français, organisées en Russie et l'arrivée de collectionneurs qu'elle aura la possibilité d'apprécier les peintres post-impressionnistes, les fauves également aux couleurs vives et intenses, les cubistes aux formes géométriques, si bien que ces styles courants influenceront sa façon d'aborder son travail pictural. Et en quelque sorte, elle alchimisera tous ses apports, si je puis dire, en y mêlant les traditions populaires russes afin de produire une œuvre personnelle. Alors, ces thèmes seront variés. Ce sera de la peinture religieuse ou des scènes du monde paysan, des paysages, les machines également. Alors, d'après ce que j'ai lu sur les artistes russes en général et ce que j'ai compris, ils avaient tendance à synthétiser tous les courants novateurs de leur époque, que ce soit le cubisme, le futurisme, pour proposer une production spécifique. Et c'est d'ailleurs le cas du futur mari de Natalia Goncharova, nommé Mikhail Larionov, qui avec elle inventera le rayonnisme, qui est un style de peinture plutôt abstraite. Alors j'ai essayé de trouver une définition du rayonnisme qui tienne la route et qui soit claire, compréhensible, ce qui n'est pas si facile car nous rentrons là un peu trop dans des théories picturales complexes. Et je vais vous lire déjà ce que Mikhail Larionov lui-même, et vous ferez vous-même votre religion, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà la définition qu'il donne dans son traité de la peinture rayonniste daté de 1913. Alors je vous la lis. Combinaison des couleurs, densité, rapports différents entre les masses colorées, profondeur, facture, texture, le tableau semble glisser. Et réunion en masse d'ensembles de formes interspatiales disposées sur un foyer de rayons disséminés. Bon, ben, j'espère que vous avez compris. Apparemment, il s'agirait davantage d'évoquer, grâce à la technique picturale, le rayonnement qui émane d'un objet plutôt que de s'attacher à représenter cet objet. Alors j'ai essayé de voir pour comprendre mieux, car évidemment, les tableaux sont faits d'abord pour être regardés avant d'être commentés, ce qui favorise aussi la compréhension. Et c'est pour cela que je ne conseillerais jamais assez de voir, de regarder les œuvres. Alors pour en revenir à la vie de Natalia Goncharova, elle participera à la création avec son futur mari, le peintre Mikhail Larionov, à un groupe d'artistes d'avant-garde russe qui sera appelé le Valet de Carreau, mais dont ils se désolidariseront par la suite pour opposition d'idées. Alors un nouveau cercle d'artistes russes avant-gardistes appelé la Queue de l'âne fera suite au Valet de Carreau et il accueillera le peintre abstrait connu à l'international, Malevitch, adepte du cubisme, du futurisme et le fondateur de ce mouvement basé sur la dynamique de construction géométrique et chromatique simple qu'il appelle le suprématisme. Alors Natalia Goncharova sera aussi considérée en quelque sorte comme le chef de file de ce qui est nommé le groupe des Amazones russes. Il s'agit d'un groupe de 6 femmes avant-gardistes et dont les pionnières les pionnières de l'art moderne. Parmi elles, je citerai Alexandra Exter, Lyubov Popova, Varvara Stepanova, Nadezhda Udaltsova, Olga Rosanova. Et cette dernière fut déjà présentée dans La Voix des Arts en tant qu'adepte du collage, qui est cette technique intégrant des morceaux d'éléments du réel aux créations et notamment des photos. Alors pour sa façon de traiter l'image, Natalia Goncharova sera remarquée par le chorégraphe Serge Diaghilev. S'ensuivra une collaboration qui lui permettra de créer des décors de théâtre, créer des projets pour costumes de scène. Dans les années 20, elle a une quarantaine d'années, elle est à Paris et se mêle aux artistes de ce Paris, ville qui irradie grâce à eux de créativité, d'inventivité, en attirant en son sein les artistes du monde entier, ce que j'avais déjà évoqué dans la Voix des Arts. Elle fera partie de ce qui est appelé l'école de Paris, qui regroupe dans cette ville phare tous les talents étrangers venus chercher l'inspiration, s'instruire et créer. Elle connaîtra le succès, exposera dans de nombreux lieux en France et à l'étranger, pour finir dans l'oubli et la pauvreté, notamment après les guerres qui ont sévi. Et ce sera le cas également pour Mikhaïl Lorionov. Et ils seront redécouverts dans les années 50 et des rétrospectives leur seront par la suite consacrées. Alors j'ai évoqué le groupe des six Amazones de l'avant-garde russe, mais avant de vous les présenter, nous allons au préalable faire une petite pause musicale en compagnie encore d'une femme, une compositrice. Alors figurez-vous que j'ai rencontré une musicienne russe en France, à Paris, qui toute jeune a dû fuir la Russie avec sa famille. Alors il faut dire, ce qui risque de devenir habituel au cours de ces émissions sur la Russie du XXe siècle, c'est que son père a été fusillé lors de la Révolution russe. Alors elle porte son nom d'artiste, Anna Marley. Elle est née Anna Betulinskaya en 1917 à Saint-Pétersbourg et outre compositrice, elle est guitariste et chanteuse. Alors si vous ne le saviez pas, c'est le moment de le découvrir. Figurez-vous encore que c'est Anna Marley qui a composé en 1942 le fameux « Chant des partisans », hymne dédié à la résistance française pendant l'occupation nazie de 39-40 et que les résistants dans les maquis sifflotaient pour se localiser mine de rien. Alors comment cette mélodie fort célèbre est arrivée aux oreilles françaises et notamment des résistants? Eh bien ils le doivent en partie à un écrivain réalisateur nommé André Gillois, responsable d'une émission radio et qui cherchait un indicatif musical pour illustrer son émission justement de résistance. Et c'est là que la jeune fille lui a été présentée, qui lui a proposé quelques compositions qu'elle joue à la guitare, accompagnée de ses musiciens, et cette mélodie a été choisie. Alors elle a écrit les paroles en russe, et les paroles françaises que nous connaissons ont été traduites, réécrites par l'écrivain politique français Maurice Druon, aidé de son oncle, le romancier Joseph Kessel, qui lui aussi était d'origine russe, soit dit en passant. Et à l'origine, Anna Marley avait intitulé ce chant « La marche des partisans » et cette musique lui aurait été inspirée par une de ses lectures sur la Russie, relatant des batailles entre Russes et Allemands. Alors elle a aussi composé la musique de la « Complainte du partisan », à ne pas confondre avec le chant des partisans, qu'interpréteront Jeanne Bèze et Léonard Cohen. Alors il est dit aussi qu'elle aurait composé plus de 300 chansons, dont certaines ont été interprétées par Édith Piaf. Elle vivra jusqu'à l'âge de 89 ans, sera faite entre-temps chevalier de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre national du Mérite et des squares, collèges, médiathèques portent maintenant son nom. Alors si vous voulez faire sa connaissance, eh bien, je vous propose de lire ses mémoires intitulées « Anna Marley, le troubadour de la résistance ». Et moi, je vous propose bien évidemment de l'écouter ici maintenant. Aussi, nous allons écouter non pas le chant des partisans, mais la complainte du partisan, parole écrite par l'écrivain français Emmanuel Destier de la Vigerie, mes musiques composées et chansons chantées par Anna Marley. Place à Anna Marley.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison des frontières. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, l'ennemi l'a su. Il est mort sans surprise. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera, nous rentrerons dans l'ombre.
Revenons à nos plasticiennes, celles qui font partie du groupe des 6 Amazones avec Natalia Goncharova. Alors, vous rencontrez Alexandra Exter, qui est née en 1882 et a su créer du lien entre l'Europe et la Russie. Ses inspirations sont diverses, que ce soit de l'art populaire, par exemple les broderies ukrainiennes. Elle s'inspire également du cubisme, du futurisme, du simultanéisme, qui correspond à une technique picturale en jouant avec le contraste simultané des couleurs et qui agit globalement sur la perception que l'on en a. Bon, ses œuvres sont visibles sur Internet, hein, vous pouvez vous rendre compte de son travail plus précisément. Elle est peintre, mais aussi illustratrice de livres, fréquentera également le milieu du cinéma, réalisera des décors de théâtre, touchera aussi à la céramique. Alors, une autre de ses Amazones se nomme Lyubov Popova. Elle est née en 1889, est issue d'une famille aisée et s'initiera toute jeune au dessin, à la peinture, à l'art de l'icône. Elle aussi s'est retrouvée dans le Paris artistique dans les années 10 du début du XXe siècle, en a profité également pour visiter l'Italie afin de s'initier et de s'inspirer de la réalité artistique ambiante et notamment avant-gardiste comme le futurisme. Bon, celle-ci s'est surtout inspirée du cubisme. Alors, il est dit qu'elle est inspirée également par des sources plus classiques, hein, comme la Renaissance ou bien l'art oriental. Elle est repérée pour son traitement singulier des formes et des couleurs. Sa peinture est également à découvrir et Internet nous en donne quelques exemples. Et elle n'a pu poursuivre sa carrière, faire évoluer sa peinture, car elle est décédée jeune de maladie à l'âge de 35 ans. Alors, parmi ces dames, nous rencontrons Nadejda Udaltsova, née en 1885, dont on retrouve une correspondance avec Popova dans son appropriation du cubisme. Elle a d'ailleurs étudié avec Lyubov Popova à Paris. Bon, vous connaissez Olga Rosanova, que je vous ai déjà présentée à la Voix des Arts, mais qui, en dehors ou avec ses collages, est adepte du cubisme et du futurisme. Apparaît également Varvara Stepanova, laquelle est née en 1894 dans ce pays qui est devenu la Lituanie et qui est surtout connue dans le contexte de la Révolution d'octobre, puisque comme son mari, l'artiste Alexander Rodchenko, elle s'attachait à l'idéologie du régime soviétique pour traduire, exprimer la force de l'État dans ses productions visuelles. C'est donc une adepte du constructivisme, j'en bafouille, un art fonctionnel avant tout, et de la mécanisation des formes humaines. Elle disposait d'ailleurs d'une palette assez diversifiée d'activités artistiques. Elle était peintre, dessinatrice, poète également, tournée vers la poésie futuriste. Et dans ce secteur de la poésie et de l'écriture, il semblerait que d'une manière générale, l'écriture et sa mise en scène se confondent pour produire une œuvre qui propose une esthétique visuelle un peu spéciale, car se mêlent l'écriture et la peinture. Le graphisme peut aussi servir d'illustration. L'ensemble est présenté sur des supports plutôt simples, rudimentaires, comme du carton, de simples feuilles ou même de la toile. Alors, il semblerait que le poète qui représentait plutôt bien ce courant futuriste soit Vladimir Mayakovsky. Alors, je vous avais parlé des femmes futuristes italiennes et du fondateur du futurisme, l'artiste italien Marinetti. Les Russes se sont appropriés le concept futurisme qu'ils ont accommodé, entre guillemets, « sauce russe » et qui dépasse le cadre d'une simple mécanisation des formes. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails qui risqueraient plus de nous noyer que de nous éclairer, car nous touchons de près également au domaine de la politique. Hein. Bien que tout citoyen, artiste et intellectuel compris, soit impliqué dans la vie politique de leur pays, soit en prenant position, soit en adhérant ou pas à telle ou telle idée. Mais ce que j'ai noté, et ce qui semble assez paradoxal dans le contexte russe de l'époque, c'est que les futuristes russes, apparemment, d'après ce que j'ai lu, tenaient à rester apolitiques, ce qui ne les empêchait pas d'aspirer à un renouveau en luttant contre les conformismes. Alors, au sujet du futurisme, l'écrivain ukrainien David Davidovich Bourliouk disait « Le futurisme n'est pas une école, c'est une nouvelle attitude. » Alors, être futuriste, c'est déjà se tourner vers la nouveauté, la modernité, vers le futur, comme son nom l'indique. Quant à Mayakovsky, pour en dire deux mots, car il est devenu extrêmement célèbre pour ses actions et ses productions, son destin est plutôt pathétique. Et c'est là qu'il convient d'aborder la situation politique de la Russie début du XXe siècle, en soulignant le fait que Mayakovsky était, paraît-il, comme d'autres intellectuels ou artistes comme lui, partisan de la révolution d'octobre, de cette insurrection bolchevique qui est survenue après les événements de février, dont les faits se traduisaient par le renversement du pouvoir tsariste. Comme vous le savez, le tsar, son épouse et ses enfants ont été mis à mort, pour ne pas dire massacrés par les révolutionnaires. Le nouveau pouvoir qui fut mis en place en tant que gouvernement provisoire est représenté par Kerensky, un homme de loi et membre du parti révolutionnaire, ne convenait pas aux bolcheviques représentés cette fois par Lénine et Trotsky, l'une des deux factions du parti ouvrier social-démocrate de Russie. Donc cela s'empare du pouvoir en s'imposant par la force au nom des paysans surtout, des ouvriers également, c'est-à-dire au nom du prolétariat représenté par les prolétaires, le peuple des travailleurs, et la paysannerie, ces masses laborieuses réduites en servitude par une classe supérieure et qui travaillent la terre. Alors la révolution inspirée d'ailleurs de la Révolution française, s'était faite contre le tsarisme, d'accord, ensuite contre les bourgeois, en tout cas contre une classe dominante dite capitaliste, mais également contre des éléments issus de la classe populaire, mais qui se seraient montrés trop complaisants en cherchant des voies plus pacifistes. Et selon Lénine, seule la dictature pouvait permettre un renouvellement total et donc une prise de pouvoir totale par le peuple représenté par les soviets, qui était à l'origine un conseil d'ouvriers, de paysans et de soldats. Donc cette dictature s'installe, naît le Parti communiste de l'Union soviétique, le PCUS, qui après l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire l'URSS, créé en 1922, devient le seul parti politique autorisé. Et donc, dès que ce pouvoir dictatorial est bien assis, c'est le début d'une sorte de chasse aux sorcières dont on découvrira bien des années plus tard les conséquences dramatiques et destructrices. Et en effet, le pouvoir soviétique persécutera Mayakovsky, comme d'autres d'ailleurs, que chacun ait sa part, notamment intellectuels ou artistes, qui risquaient peut-être de penser ou de faire autrement que ce que le pouvoir commandait, ou plutôt imposait, à moins que le régime en place n'ait voulu tuer dans l'œuf quelques velléités de révolte. Va-t-on savoir ? Alors il y eut aussi des délations, sans autre raison que celle commune et habituelle que l'on rencontre partout ailleurs, comme la jalousie ou la rancœur. En tout cas, la période est difficile, ceux qui le pouvaient prenaient la fuite, et tant mieux pour eux, et les autres étaient condamnés au goulag, qui sont des camps de travail, alors que d'autres encore passaient sous le peloton d'exécution. Quant à Mayakovsky, ce qui peut être pratique pour ses persécuteurs, il ne résistera pas si bien qu'à la suite d'épreuves trop lourdes, auxquelles il faut rajouter quelques tourments amoureux, eh bien il mettra fin à ses jours à l'âge de 38 ans. Alors pour en revenir à Varvara Stepanova, qui elle continue son chemin, eh bien elle illustrait également ses textes de façon insolite avec gouache, collage, dessin. En outre, elle participera à l'élaboration de diverses revues. Elle sera aussi décoratrice de théâtre et créatrice de costumes. Tout est d'inspiration constructiviste, avec des formes géométriques. Elle travaillera aussi pour le cinéma dans la création de décors. Alors, j'ai lu également qu'elle avait conçu et proposé des vêtements à tous les corps de métier en association avec l'artiste présenté plus avant, nommé Lyubov Popova. Il s'agit de vêtements de travail, les prosodiejda, qui présentent un même modèle pour tous, une façon d'incarner l'égalité sans doute. La variante, c'est l'impression sur tissu de formes géométriques simples, parfaitement reconnaissables, au nombre de trois, à savoir le cercle, le triangle et le rectangle. Elle enseignera également à la section textile dans une école. Elle collaborera également avec son mari, Alexander Rodchenko, qui lui aussi disposait de plusieurs cordes à son arc, peinture, sculpture, design, photographie. Et ce qu'ils feront ensemble, ce sera surtout de l'illustration ou la réalisation de recueils de photos. Et elle décédera assez jeune, à l'âge de 63 ans. Voici donc nos six Amazones russes, en terre russe ou soviétique, au choix, qui ont accompagné avec leur création, leur soif de nouveauté, de changement et leurs illusions aussi, ce qui veut tout dire, les événements politiques et sociaux mouvementés de leur pays. Et ce seront les mots de la fin, du moins pour cette émission, car nous nous retrouverons, nous retrouverons les femmes artistes russes une prochaine fois sur la Voie des Arts, où j'aurai le plaisir de vous retrouver. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.